France Info. L'invité politique de France Info ce matin est Frédéric Vidal, ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, Jean-Michel Apathy.
Bonjour Frédéric Vidal.
Bonjour.
La réforme du baccalauréat est présentée aujourd'hui en Conseil des ministres. Alors, si on a bien compris, l'objectif c'est de faire davantage de contrôle continu, moins d'épreuves écrites. Certains enseignants déplorent cette réforme en disant le contrôle continu, ça va entraîner une inégalité dans le baccalauréat. Et je vous propose d'écouter une enseignante qui dit, elle, autre chose. Elle dit, le grand oral nous amènera à nous interroger surtout ou à nous fixer surtout sur des questions de comportement, d'attitude, et c'est pas terrible pour le baccalauréat, on l'écoute.
Le risque, c'est que ça devienne une sorte d'évaluation, j'allais dire, de tout ce qui n'est pas de l'ordre du scolaire, c'est-à-dire du comportement, de la façon de se présenter.
Alors, c'est une enseignante du SNES que le journal de 20h de France 2 avait interrogé hier soir. C'est vrai que l'égalité d'avant va un peu disparaître au profit d'une subjectivité plus grande.
Non, je crois que ça va être surtout beaucoup plus d'équité, puisque...
Ah, vous croyez ?
Oui, j'en suis persuadée.
D'équité.
Parce que ce qui est vraiment...
Parce que ça n'est pas équitable aujourd'hui.
Ce qui est vraiment essentiel, je crois, c'est que, comme ce qui se passe dans le supérieur, c'est qu'on refasse de l'enseignement un véritable moteur de l'ascenseur social. Et donc, il faut qu'on soit en capacité de faire travailler les élèves, évidemment, non seulement sur les fondamentaux,
mais... Je le faisais déjà.
Absolument,
mais aussi
dans le cadre de cet oral, puisque c'est cet oral qui était interrogé. Ouais. Je pense que c'est très important qu'on accompagne l'ensemble des élèves pour leur permettre de s'exprimer, de prendre la parole en public. C'est quelque chose qui est très important dans le monde d'aujourd'hui.
Est-ce que vous convenez que le contrôle continu, là qui dépend de l'enseignement reçu dans chaque lycée, n'étant pas le même d'un lycée à un autre, il y a des formes d'inégalité. Le baccalauréat n'aura plus tout à fait la même valeur, pas la valeur égalitaire qu'il a aujourd'hui en tout cas.
Alors en fait, là on est sur une présentation qui va être faite aujourd'hui en Conseil des ministres.
Oui.
Et je sais que Jean-Michel Blanquer a travaillé justement sur ce sujet, c'est-à-dire comment faire en sorte que justement ce contrôle continu ne soit le plus général possible. Donc il y avait plusieurs pistes qui étaient évoquées, et il nous dira tout à l'heure celles qui ont été retenues.
Ça dénature un peu l'ADN du bac.
Non, je pense que le baccalauréat, il faut bien le voir et le replacer dans ce qu'il est, c'est-à-dire une étape et non pas une barrière ou un but en soi. Et on a beaucoup parlé depuis des années du continuum entre le lycée et la licence, du bac moins 3 vers le bac plus 3. Et je crois que ce qui est important, c'est que le baccalauréat, effectivement, soit reconnu comme le premier diplôme de l'enseignement supérieur.
C'est le cas aujourd'hui.
Et que donc il prépare vraiment à cet enseignement supérieur.
C'est des questions de gros sous, c'est pour ça qu'on le réforme ? Ça coûtera moins cher de le faire ?
Je ne suis même pas persuadée que ça coûtera moins cher. En tout cas, le point d'entrée n'a certainement pas été celui-là. Le point d'entrée a été de savoir comment est-ce qu'on accompagnait mieux les élèves vers cette étape qui est le baccalauréat.
C'est devenu un cliché de dire le bac ne vaut plus rien, on le donne à tout le monde, etc. Est-ce qu'il sera d'une certaine façon réévalué pour ensuite revaloriser ?
C'est-à-dire qu'il y ait moins de gens qu'il est ? C'est ça que vous voulez dire, Russe ?
Est-ce que le bac
sera plus sélectif ?
Oui, d'une certaine façon.
Non, c'est vraiment, une fois de plus, c'est vraiment pas l'idée. L'idée, c'est qu'on soit en capacité d'accompagner les jeunes vers ce diplôme qui est à la fois un diplôme qui a une très forte valeur symbolique. Dès qu'on parle du bac, effectivement, on touche à quelque chose qui est un symbole extrêmement fort. C'est comme un rite de passage vers l'âge adulte, finalement. Et donc ça, c'est effectivement très important. C'est pour ça qu'il y a des épreuves qui restent, des épreuves écrites. C'est pour ça qu'il y a cette idée aussi d'oral, qu'il y a aussi cette forme de symbole qui est fort. Mais l'objectif, une fois de plus, c'est que on a beaucoup travaillé la massification. Et c'est très important parce que plus le niveau d'études s'accroît, plus les pays vont bien. Et ça, je pense que c'est largement démontré. Il faut qu'on travaille maintenant à la démocratisation et c'est un autre sujet.
Bon, donc on verra le détail puisque La présentation en Conseil des ministres sera suivie par les explications du ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer. De votre côté, vous défendez un projet de loi réformant l'enseignement supérieur, ou du moins l'entrée des lycéens, dans le système universitaire. Le texte est presque voté maintenant par le Parlement, puisqu'hier, sénateurs et députés se sont entendus sur une version définitive. C'est un texte qui suscite beaucoup de scepticisme, beaucoup d'inquiétudes. D'abord, ça n'est pas une surprise, mais ils sont intéressants à écouter de la part de vos opposants.
Une fois que vous aurez fait vos 10 choix, si au bout d'un moment les 10 choix sont récusés, eh bien on se retrouvera avec des bacheliers qui en réalité n'auront pas de place dans les établissements, c'est à ça que ça conclut.
Les prérequis, c'est de la sélection. Ça existait déjà, mais c'est de la sélection à l'entrée de l'université désormais. La question c'est, aujourd'hui, décourage-t-on des étudiants, ou en tout cas des lycéens et des bacheliers, de rentrer à l'université? Oui.
Voilà, décourage-t-on des bacheliers de rentrer à l'université? C'est ce que craint Benoît Hamon, et cette crainte est aussi celle de lycéens que l'on écoute.
En bac L, ne pourront plus faire, par exemple, psychologie, par exemple. Donc, c'est des attendus, ça va être dans les filières, tout ce qui est considéré comme scientifique, on va demander à ce qu'ils sortent précisément d'un bac scientifique et pas d'un autre bac. C'est aussi la fin du bac comme diplôme national d'entrée à l'université, comme un vrai passeport d'entrée à l'université.
Vous voyez, beaucoup de gens lisent votre réforme comme une réforme qui va entraîner de la sélection.
Alors, je pense que effectivement, ça veut dire qu'on a encore un grand travail de pédagogie à faire, puisque sur chacune de ces 3 allégations, évidemment, je n'en porte aucune et je ne suis d'accord avec aucune d'entre elles. D'abord, nous avons mis en place une commission, c'est-à-dire que cette année, contrairement à ce qui se passait les années précédentes, lorsque un lycéen n'aura aucune proposition acceptée, par exemple s'il fait uniquement des vœux dans des filières sélectives, une commission rectorale qui regroupera l'ensemble des chefs d'établissement prendra contact avec ce lycéen et lui fera des propositions.
Donc oui, ça c'est la première chose. Mais si aucun de ses vœux n'est accepté, ça veut dire qu'il a été sélectionné négativement.
Oui, mais enfin, plus de 50% des formations sélectionnent aujourd'hui. Hein. Donc quand vous avez, et c'est le cas de très nombreux lycéens, des lycéens qui ne demandent que des BTS ou des IUT, il faut aussi qu'on les accompagne et qu'on soit en capacité de leur proposer à la limite d'autres BTS ou d'autres IUT, parce que on a encore ce sujet de l'information, de l'orientation correcte. On a 13 000 formations qui sont inscrites sur la plateforme. C'est énorme, 13 000 formations, et il faut les aider dans cette jungle.
Vous dites que chaque lycéen trouvera sa place à l'université. Est-ce qu'il trouvera la place qu'il souhaite?
Chaque lycéen trouvera sa place dans l'enseignement supérieur.
Supérieur, voilà. Ça, mais est-ce que c'est la déjà place qu'il souhaite, qu'il demande? On essaiera de creuser la conversation.
D'accord.
Si vous l'acceptez.
Sur le sujet
non,
de...
Non, excusez-moi, on essaiera de creuser la conversation.
Oui. Dans une minute, si vous voulez bien. Voilà. Merci d'accord. Beaucoup, vous restez avec nous, Frédéric Vidal. 8h40, l'essentiel de l'info est de Vich Coupèze.
France Info.
Frédéric Vidal, ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, est l'invité de France Info ce matin, Jean-Michel Apathy.
Donc vous répondiez aux critiques de ses opposants à votre
réforme?
Non, en
fait, je rétablis simplement la vérité. En ce qui concerne les attendus et les prérequis, là encore, c'est de l'information qu'on donne aux lycéens. Vous savez, quand vous êtes en bas d'un amphi de première année et que semaine après semaine, vous voyez les étudiants disparaître, et que quand vous leur dites « mais pourquoi est-ce que vous ne venez plus en cours ?», ils vous répondent « parce que c'est pas du tout ce que je pensais, parce que je savais pas qu'on attendait ça de moi ». Moi, je pense que c'est important de les prévenir avant. Mais il faut bien comprendre que, contrairement à ce que disait le lycéen dans la dernière partie de l'interview, et c'est vraiment très important de le redire à tout le monde, on pourra parfaitement aller faire de la psycho avec un bac L ou décider de faire une filière scientifique avec un bac qui n'est pas un bac scientifique. Simplement, on sera prévenu que, comme on a probablement un certain nombre de choses à rattraper,
on a un déficit.
Eh bien, l'université offrira ça. Donc, on sera bien inscrit dans la licence de son choix, mais simplement, l'université mettra en place ses cours de rattrapage de méthodologie pour aider à réussir.
Alors, ces cours de rattrapage de méthodologie, qu'est-ce qu'on lui dit?
Alors, il y a une forme d'obligation, puisqu'il y a le parcours personnalisé est un parcours qui va être prescrit par l'établissement. Et ce que dit la loi, c'est que si l'étudiant refuse cette prescription, il n'est pas inscrit.
Ah, il n'est pas inscrit, voilà.
Donc, mais c'est une forme d'accompagnement vers la réussite. Moi, ce que je souhaite, c'est que les étudiants qui arrivent dans l'enseignement supérieur, ils restent et en sortent diplômés. Ce que je ne souhaite pas, c'est une carte d'étudiant pour tout le monde et je ne m'occupe plus des étudiants ensuite. C'est une carte d'étudiant pour tout le monde et on amène les étudiants vers la réussite.
Alors le mot de sélection fait peur dans ce débat sur l'université, ça fait 30 ans qu'il fait peur, oui. Tout le monde le sait, on a déjà vécu ça avant dans d'autres vies. On a noté qu'un sénateur, le sénateur Les Républicains, Jacques Grosperrin, a déposé la semaine dernière, c'est un peu technique mais on va essayer de décrypter tout cela, oui. Simplement. La semaine dernière au Sénat, un amendement où il dit, en plus de toutes les conditions, les prérequis, etc., il faut que les responsables des universités puissent connaître les débouchés professionnels pour savoir combien d'étudiants ils peuvent accueillir. Donc, on voit bien là que l'idée de sélection par le biais de l'amendement du sénateur Grosperrin a fait son chemin, et un amendement qui a été en partie accepté par la commission mixte paritaire hier, c'est vraiment technique, je m'en excuse, qui entre députés et sénateurs a finalisé le texte qui sera voté définitivement demain au Parlement. Et on écoute le sénateur Grosperrin, après cette commission mixte, lui, le mot de sélection, il l'assume et il le revendique. On écoute.
Il me semble fondamental que les étudiants le comprennent. D'ailleurs, je crois qu'ils l'ont très bien compris, qu'il y a une forme de sélection qui existe pour rentrer à l'université, parce qu'il ne faut surtout pas les envoyer dans des filières où ils sont voués à l'échec.
Donc le but, tout le monde le partage, on n'envoie pas les gens à l'échec, mais le moyen pour éviter ça, c'est la sélection.
Non, ce qui existe actuellement, c'est la sélection par l'échec. On a eu ce débat notamment dans l'enceinte du Sénat.
Et donc, si on n'avait plus d'échec, il faut sélectionner.
Ce qui existe actuellement, c'est la sélection par l'échec. Ce que l'on met en place, c'est les moyens d'accompagner les étudiants vers la réussite.
Alors, c'est un peu du marketing, dit
non,
comme ça.
Non, la question, on va pas. Pour moi, l'important, c'est pas que on s'attache et on s'accroche sur un mot. L'important, c'est vraiment la philosophie de ce texte. Lorsque l'on a dans le projet de loi de finances comme objectif d'amener 30% d'une classe d'âge diplômée de licence alors qu'ils sont inscrits dans une licence, c'est-à-dire qu'on affirme dans le projet de loi de finances depuis des années que ça n'a aucune importance, que 70% des étudiants qui s'inscrivent à l'université n'obtiennent pas de licence, moi, c'est quelque chose qui me dérange. Et c'est contre ça que je travaille. Après, que les gens appellent ça comme ils veulent, j'allais dire que ce n'est pas mon sujet. L'insertion professionnelle est une mission des universités, mais c'est loin d'être la seule. Les universités, elles ont 4 missions principales. Produire de la connaissance, transmettre de la connaissance, assurer l'insertion professionnelle des étudiants et assurer la diffusion de la culture scientifique et technique.
Et donc,
l'insertion professionnelle est une de ces 4 choses. C'est pourquoi.
Mais c'est un critère important.
C'est ce que j'avais indiqué lors des débats parlementaires, c'est évidemment une mission, c'est important que ce soit pris en compte, c'est loin d'être la seule.
Quelques questions rapides, puisque vous êtes technicienne, vous pourrez nous répondre, j'espère. Il y aura combien d'étudiants à la rentrée prochaine en France ? Et combien de places pour faire face à cet afflux d'étudiants ?
Alors ça aussi, c'est une question qui est très intéressante. On attend un peu plus de 650 000 bacheliers. Ouais. Aujourd'hui, il reste plus de 130 000 places dans l'enseignement supérieur. Néanmoins, comme ces places ne sont pas forcément dans les filières qui intéressent les étudiants, on en rajoute 22 000 à la rentrée prochaine.
22 000. Et vous espérez donc, à partir de là, satisfaire toutes les demandes ?
On sera largement au-dessus de la demande. Maintenant, ce qu'il faut travailler, c'est l'adéquation entre les souhaits des étudiants et les lieux où sont situées les places.
Un plan de départ volontaire a été annoncé dans la fonction publique. Est-ce que les universités vont souffrir de ce plan de départ volontaire ?
Alors, c'est très particulier, les universités, puisque depuis l'autonomie, en fait, il y a délégation de la masse salariale et toute la politique de ressources humaines est faite dans chaque université par les conseils d'administration et les présidents.
Mais il y a beaucoup de fonctionnaires dans les universités.
Oui, mais ce sont des fonctionnaires, si je puis dire, dont la gestion est déléguée aux établissements.
Qui ne seront pas concernés par ce plan ?
De toutes les façons, ça existe déjà.
Non, mais le plan de départ volontaire.
Oui, mais le plan, c'est ce que je vous dis. Hein. Ouais. Dans le monde universitaire, que ce soit les enseignants-chercheurs ou les chercheurs, il y a très souvent des va-et-vient entre le monde académique et le monde non académique. Et donc, je pense que ça changera pas forcément grand-chose.
Mais il n'y a pas
c'est
que
dans tous les cas, c'est dans tous les cas volontaires.
Il y a beaucoup de métiers.
On a aussi, absolument, vous avez raison, tous les personnels administratifs ont aussi des possibilités de mobilité. La mobilité pour sortir de la fonction publique en mode de départ volontaire, c'est quelque chose qui a toujours existé au sein des universités.
Oui, mais là, on nous annonce un plan pour en faire plus. Donc, la question que je vous posais, mais
on est
peut-être
toujours,
que
on
pas
est
la
toujours sur du départ volontaire, et comme je vous le dis, ce sont des choses qui existent déjà.
Non, il n'y a pas toujours.
Dans les labos et les établissements.
Non, il n'y a pas toujours. Là, on va y être spécialement, puisqu'on nous l'a annoncé.
Je pense que.
Est-ce qu'on va faire un effort supplémentaire pour qu'il y ait moins de gens qui travaillent dans les universités, parce que les universités ont des finances qui ne sont pas toujours en bon état, tout
oui.
Le monde le sait.
Je ne pense pas que la problématique des universités soit d'avoir trop de personnel.
Mais la problématique des universités, c'est d'avoir des finances saines.
Absolument.
Mais ça, il peut y avoir une contradiction entre les deux.
Mais ça, c'est le rôle des présidents, le rôle du conseil d'administration. C'est comme ça depuis la loi sur l'autonomie.
Bon, donc on attendra que les ministres concernés précisent leur plan pour avoir une réponse. Vous êtes un peu ministre de la jeunesse, d'une certaine manière.
Alors, c'est pas moi qui ai la compétence jeunesse, mais bien sûr, sur ce sujet, c'est essentiel que, comme sur beaucoup d'autres d'ailleurs,
vous devez avoir un œil attentif.
On travaille ensemble avec Jean-Michel Blanquer.
Vous devez avoir un œil attentif sur le service civique volontaire. La ministre de la Défense a dit la semaine dernière que ce service ne serait pas obligatoire, puis elle a complété plus tard en disant qu'il ne serait pas non plus facultatif. Moi, personnellement, j'adore. Et hier soir, Christophe Castaner, c'est à vous, était à peu près aussi clair que la ministre de la Défense.
Il y a la volonté que ce soit obligatoire, mais qu'on prenne en compte des situations individuelles. Il ne s'agit pas d'une obligation militaire. Il s'agit d'un service national de citoyenneté. Ça doit garder son caractère obligatoire. Mais vous voyez bien qu'aujourd'hui, on n'est pas sur le texte de loi.
Systématique, mais pas obligatoire.
Pour tous. Mais moi, je rêve d'une société où servir pendant un mois l'intérêt collectif ne soit pas une obligation.
Voilà. Alors, bon, on s'amuse parce que finalement, on ne comprend rien. Obligatoire ou facultatif? Est-ce que vous avez une opinion, Frédéric Vidal?
Alors c'est pas une opinion que j'ai, hein. Je crois que ce qui est en train de se préparer, c'est en réflexion et on en saura plus fin avril. On n'a pas les solutions toutes faites et on les dévoile pas au fur et à mesure. On y réfléchit, on les fait avancer, on les fait évoluer. Donc l'objectif, et là encore il faut le rappeler, qu'est-ce que c'est? C'est qu'on soit en capacité de recréer ce qui existait au moment du service militaire, c'est-à-dire la possibilité pendant un temps défini d'avoir ensemble des gens qui probablement auraient pu ne jamais se rencontrer dans leur vie, de manière à ce qu'on crée de la cohésion.
Obligatoire ou facultatif?
Absolument, obligatoire. Mais par contre,
c'est ce qu'a dit le président hier soir devant des journalistes. Et il a dit obligatoire et de 3 à 6 mois.
Alors, obligatoire, c'est très clair. Pas forcément militaire, et je pense que c'est évidemment...
Obligatoire, c'est très clair. D'accord.
Obligatoire, c'est très clair.
Parce que là, même Castaner, il savait pas quoi.
Alors, c'est toujours pareil, c'est comme sur...
Si le président a dit que c'est obligatoire...
Est-ce qu'on
3 à 6 mois.
La question, c'est est-ce qu'on joue sur les mots?
Ah.
Voilà, obligatoire, ça veut dire qu'effectivement, une classe d'âge dans son ensemble va avoir ce service national universel. Le service militaire, pour vous, il était obligatoire ou il n'était pas obligatoire? Il y avait pourtant des gens qui en étaient dispensés.
Ah, moi, obligatoirement.
Voilà, mais il ne faut pas qu'on joue sur les mots, effectivement. Il y aura des cas particuliers,
il y aura des aménagements.
Ça pourrait être militaire ou ça pourrait être civil. Voilà, je crois que c'est tout ce qui est en débat. Et la réponse, ce sera fin avril.
France Info. Frédéric Vidal, ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, et l'invité de France Info. Juste un tout dernier mot sur le service obligatoire. Je me disais, 3 à 6 mois, ça ne va pas être pratique pour vos étudiants. Ils vont rater quelques partiels, le temps d'aller faire le service.
Une fois de plus, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que... La forme n'est pas définie.
Donc ils pourront peut-être faire les deux.
On pourra probablement valoriser une forme d'engagement. Une fois de plus, la discussion est en cours. On en saura plus et les choses seront fixées fin avril. On y travaille au niveau de l'éducation, au niveau de l'enseignement supérieur, au niveau des armées. Une fois de plus, rappelons l'objectif. L'objectif, c'est qu'il faut que nous soyons en capacité d'avoir cette forme de cohésion sociale qui se produise dans notre jeunesse.
C'est une vérité de l'action publique, ce qui paraît simple à énoncer. Le candidat Macron a dit un mois de service national obligatoire. Est extrêmement difficile à réaliser. On le comprend en vous écoutant et on comprend que le débat n'est pas encore tranché.
Non, c'est normal puisqu'on a dit qu'on aurait une position à partir de fin avril.
Deux élections législatives partielles se sont déroulées il y a 10 jours maintenant. Toutes les deux ont vu la défaite du candidat La République En Marche. Certains ont dit les Français sont mécontents que le pouvoir d'achat notamment ne se traduise pas. C'était une des promesses du candidat Macron dans les fiches de paye. Les retraités notamment font partie des mécontents parce que la hausse de la CSG aurait pu les fâcher. Et quand il entend ça, Bruno Bonnel, qui est chef d'entreprise, député La République En Marche du Rhône, se met un peu en colère. On écoute Bruno Bonnel, c'était au Grande Gueule d'RMC au début de la semaine.
On n'entend que ça, le pouvoir d'achat. Comme si la vie se résumait au pouvoir d'acheter. En France, les gens sont soignés. En France, les gens peuvent aller à l'école. En France, vous avez des pas de trous sur la route. Attendez, je voudrais finir mon point. C'est si vous vous contentez de regarder uniquement... alors vous avez dit 300 qui sont une caricature, mais l'argent qui est dans la poche des gens, et dire vous vous définissez par rapport à ce pouvoir d'achat et par ce pouvoir d'acheter, vous oubliez quelque chose d'autre qui est la qualité de la vie.
Pouvoir d'achat ou qualité de vie? Qu'est-ce que vous pensez du propos de Bruno Bonnel? Est-ce que vous ressentez les choses comme lui ou pas du tout?
Moi, je pense que on est dans une période où les gens ont souhaité qu'il y ait un changement à la tête de l'État. Les gens ont souhaité que le pays soit gouverné différemment. Les gens souhaitent que les choses changent, que le pays se transforme, que le pays se répare. Je crois que c'est ça le mandat qui nous a été donné.
Il y a un problème ou pas ?
Non, il n'y a pas de problème. Une fois de plus, le pouvoir d'achat, c'est important parce que ce qu'on a dans sa poche, selon ce qu'on a et la quantité de ce qu'on a, ça a une importance plus ou moins grande, si je puis dire. Le pouvoir d'achat a été augmenté au mois de janvier, sera encore augmenté au mois d'octobre. Il y aura un plein effet sur l'année 2019 des différentes mesures qui ont été mises en place. Et ça, c'est un sujet qui, effectivement, intéresse les Français. La qualité de la vie...
Le pouvoir d'achat augmente, c'est ce que vous nous dites ce matin.
Absolument. Il y a, sur l'ensemble des mesures qui ont été prises, un certain nombre de personnes ont déjà vu cet effet d'augmentation du pouvoir d'achat. D'autres verront cet effet augmenter ou le verront apparaître au mois d'octobre. D'autres en 2019, lorsque
l'augmentation de salaire, c'est pas forcément l'augmentation du pouvoir d'achat. C'est pas forcément aussi automatique.
Absolument, mais je crois que au-delà de ce qui est mis en place, lorsque on aide les gens à avoir des voitures moins polluantes, lorsque on met en place des choses qui vont permettre d'améliorer la qualité énergétique des logements, on participe au pouvoir d'achat. Mais ce que je voudrais dire pour conclure, c'est que évidemment la qualité de la vie, c'est très important, et la qualité de la vie, c'est aussi la capacité de se projeter dans l'avenir avec optimisme. Et je crois que c'est ça qui est très important et qu'il faut que notre pays retrouve.
Votre collègue Nicolas Hulot est dans la tourmente depuis la publication de l'article de l'Hebdo. Il est l'objet d'une plainte pour violence sexuelle. Vous n'étiez pas au courant de cette plainte ?
Non, bien sûr.
Vous voudriez en savoir plus ? Quand on accuse quelqu'un, même si les faits sont prescrits, quelqu'un qui a une fonction politique importante, on parle souvent de devoir d'exemplarité, les faits sont prescrits. Est-ce que, il est légitime ou pas de demander ce qui s'est passé ? Qu'est-ce que vous en pensez ?
Alors, je crois que Nicolas Hulot s'est exprimé et l'a dit lui-même. Les faits sont prescrits, ça c'est un compte. Mais pour lui, ça n'était pas le plus important. Et ce qui était le plus important, c'était effectivement, et je crois qu'il aurait aimé le faire, pouvoir démontrer, en tout cas, qu'il n'y avait pas de culpabilité de sa part.
Est-ce qu'on a
je
besoin de savoir plus de choses ou pas ?
Je crois que ce qui va être prévu dans la loi qui est en préparation, c'est effectivement que le délai de prescription soit allongé. Ensuite,
Mais là, pour un dirigeant politique, est-ce qu'il faut éclaircir les situations ? Est-ce qu'on peut vivre comme ça ?
Alors, il me semble que...
L'action publique est difficile ?
D'abord, lorsqu'un jugement a été rendu, il faut respecter le jugement qui a été rendu.
Prescription, donc pas de jugement ?
Même si, effectivement, le tribunal de grande instance a effectivement indiqué que les faits étaient prescrits. Je crois probablement que Nicolas Hulot aurait préféré pouvoir s'expliquer et pouvoir se défendre. Vous savez, c'est très compliqué parce
il l'a fait.
On ne sait pas qui sont les victimes. Ce qui est important, c'est que chaque victime puisse avoir une écoute dans le cadre de quelque chose qui soit pris en charge par la justice. Et pas par les médias.
Merci beaucoup Frédéric Vidal. Bonne journée à vous.